Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver après ce week-end d'église. Heureux de voir que un certain nombre ont réussi à arriver jusqu'à nous malgré les difficultés des transports et des accès en voiture aujourd'hui. Ce matin, nous continuons notre série sur le livre d'Esther. C'est notre quatrième temps sur le livre d'Esther et nous continuons à étudier sur ce sujet comment devons-nous agir, quelle doit être notre attitude dans un monde où Dieu semble absent. De la même manière que Esther vit dans un monde où les gens ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ne se soumettent pas au Dieu d'Israël, nous sommes amenés à réfléchir sur notre position dans notre monde. Comment nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à vivre dans un monde où tous ceux qui nous entourent, de manière générale, ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, son autorité sur ce monde. Et nous pouvons partager avec Esther certains questionnements. Est-ce que Dieu est encore vraiment en train d'agir dans notre monde? Est-ce qu'il nous protège encore? Et comment nous devons nous positionner par rapport à notre société dans ces circonstances? On a vu dans les premières semaines un petit peu l'ouverture de ce récit, comment les choses se mettent en place. On a vu Esther devenir reine dans des circonstances tout à fait étonnantes. Et on a vu il y a 2 semaines... un épisode qui vraiment démarre toutes les difficultés, on pourrait dire, dans le reste du livre d'Esther. On a Mardoché, le cousin d'Esther, qui décide, pour une raison qui nous échappe, marquer un respect particulier, de ne pas accepter de se prosterner devant Aman, l'un des grands officiels de l'Empire Perse, le deuxième de l'Empire Perse. Et ça donne lieu à une situation très difficile où Aman décide non seulement de vouloir avoir la tête de Mardoché, il veut la mort de Mardoché, mais il veut surtout la mort de tout le peuple juif. Et il négocie avec Xerxès, l'empereur perse, pour que un édit puisse être communiqué pour que tout le peuple juif soit mis à mort dans les mois qui suivent. Et donc on arrive au chapitre 4 avec cette grande tension. La mort du peuple juif est annoncée. Il reste encore plusieurs mois, mais c'est annoncé, ça doit arriver. Et la seule personne qui semble pouvoir faire quelque chose, c'est cette jeune femme, Esther, qui est dans son palais, qui est d'une certaine manière coupée de son peuple, et pas forcément particulièrement proche du roi, mais c'est la seule à pouvoir faire le lien entre les deux. Et nous allons voir que dans les difficultés auxquelles doit faire face Esther, face au choix qui va se présenter à Esther, nous pouvons réfléchir nous-mêmes sur les choix que nous devons faire dans notre quotidien. Nous allons voir à travers la décision d'Esther, quelles décisions nous pouvons être amenés à faire dans nos circonstances. Alors nous allons lire les 11 premiers versets du chapitre 4 du livre d'Esther. Nous lirons la suite du chapitre plus loin dans ce temps. Et nous allons commencer avec les 11 premiers versets. Et avant d'avoir cette lecture, je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu ouvre nos cœurs à cette lecture, à ce texte et à ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Seigneur, merci parce que tu es présent et que tu veux nous parler au travers de ta parole. Ce n'est pas pour rien que tu nous as laissé ta parole, tu veux vraiment nous amener à mieux te connaître, à mieux comprendre ce que tu veux aussi pour notre vie, là où tu nous places, Seigneur, et que vraiment ce matin, ce temps soit un temps où tu viens nous parler, tu viens nous accompagner vers ta voix, vers là où tu veux nous emmener, là où tu nous as placés, Seigneur. Alors nous lisons Esther 4. Verset 1 au verset 11. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi jusqu'à la face de la porte du roi, car il était impossible d'accéder à la porte du roi revêtu d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs, jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui dire. La reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour qu'il les mette à la place du sac qu'il portait. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait mis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Hatak sortit vers Mardoché sur la place de la ville qui est en face de la porte du roi. Mardoché lui dit tout ce qui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Aman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'écrit signifiant l'édit de destruction qui a été publié à Suse, pour qu'il la montre à Esther. Il devait lui faire un rapport et lui ordonner d'aller chez le roi pour le supplier et implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther dit à Hatak, en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché, « Tous les gens de la cour du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir vers le roi. » Jusqu'ici notre lecture. Ce chapitre s'ouvre donc sur un temps d'émotions fortes. On voit Mardoché parcourant la ville avec le sac et la cendre et en train de crier toute sa détresse. On voit donc à travers du sac et de la cendre, probablement un sac en poil de chèvre et avec de la cendre sur la tête, Mardoché manifestait toute son émotion. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment transmettre au travers de ce geste? C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans l'Ancien Testament, de pouvoir revêtir le sac et de porter de la cendre. Mais ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est une marque de deuil, de lamentation, de tristesse, de détresse. Soit c'est une marque d'humiliation, de repentance pour interpeller Dieu sur la reconnaissance d'un péché. Mais on voit dans ce chapitre et dans la suite que Mardoché ne manifeste pas de repentance. Même si, d'une certaine manière, c'est son attitude qui a amené cette situation très difficile, pour lui, les choses sont claires. C'est bien Aman qui est coupable. Et on voit même dans le chapitre suivant que Mardoché continue de ne pas vouloir se prosterner devant Aman malgré le risque que ça représente pour tout son peuple. Donc quand Mardoché fait ce geste, il le fait pour manifester sa détresse, sa lamentation. C'est une anticipation du deuil qui pourrait y avoir si l'édit devait vraiment se réaliser. Mais c'est pas seulement une manière de manifester ses émotions. Il n'est pas là seul à se morfondre et à dormir sur un sac comme d'autres le font dans le peuple. Mais il veut que ce soit public. Il veut manifester publiquement la détresse de la situation. Il traverse la ville. Le texte est très clair. Il fait le choix de traverser la ville avec des grands cris. Il veut que ça se voit. C'est une forme de protestation devant le pouvoir, comme ça peut encore se faire aujourd'hui, de choisir les lieux de représentation du pouvoir pour aller manifester. Là, il se met devant la porte. Il n'a pas le droit d'aller plus loin à cause du sac et de la cendre, mais il veut être aussi près du pouvoir que possible pour que ça fasse du bruit, que les gens soient au courant de ce qui est en train de se jouer. Et on voit que ça fonctionne. On voit au verset 3 que le peuple l'imite et manifeste le même deuil, la même tristesse dans l'ensemble de l'Empire. Mais plus important, c'est par ce moyen qu'Esther est mise au courant. On se rend compte en lisant l'ensemble du chapitre que Esther découvre vraiment la situation au travers de la manifestation de Mardoché. Et quelle est sa réaction? Sa première réaction, c'est de lui faire envoyer des vêtements. Alors, certains commentateurs ont pu estimer que c'était peut-être un peu nonchalant comme réaction un peu superficielle de simplement lui dire « Habille-toi et ça ira mieux ». Mais je crois que c'est pas du tout la réaction d'Esther. Elle est réellement ignorante de la situation, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle comprend que quelque chose de très grave se joue, mais elle a besoin d'en savoir plus. Donc elle a besoin que Mardoché puisse entrer pour pouvoir en discuter en privé. Et on voit dans ce texte que s'il reste habillé comme ça, il ne peut pas entrer. Encore une fois, on ne sait pas exactement pourquoi, mais Mardoché refuse cette proposition. Esther décide d'envoyer un de ses eunuques pour aller chercher les informations. Et c'est par ce moyen-là, par cet eunuque qui va faire le lien entre Mardoché et Esther, que Esther va découvrir l'existence de cet édit. C'est comme ça qu'elle va découvrir quelle est la situation du peuple juif. Et je crois qu'on découvre quelque chose de très important sur la situation d'Esther au travers de cet échange. Imaginez, elle est reine de cet empire, elle vit à Suse, un édit royal qui va traverser tout l'empire est envoyé depuis sa ville ça a le temps d'aller jusqu'au bout de l'Empire, et c'est pas un mail qui a été envoyé, c'est un courrier qui doit traverser tout l'Empire. Et le seul moyen par lequel elle peut être mise au courant, c'est par la manifestation de son cousin devant la porte du roi. On réalise dans ces quelques lignes que Esther a été complètement coupée du monde extérieur pendant ces 5 années où elle est déjà dans le palais. Elle a vécu dans une bulle royale complètement hermétique. Non seulement elle n'a pas le droit de dire qu'elle appartient au peuple juif, mais vraisemblablement, ça fait scandale qu'elle n'a plus de contact avec le peuple juif. Et on peut imaginer, à son jeune âge, on ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais quel impact ça a pu avoir à son jeune âge de vivre 5 ans déconnecté de sa culture. Combien son identité, sa culture a pu aussi se former dans cette bulle royale dans laquelle elle a vécu. Et c'est dans cette circonstance que le test de sa vie arrive. Mardoché lui demande d'aller plaider devant le roi la cause de son peuple. Pendant 5 ans, elle a vécu avec peut-être peu de relations avec le roi, on voit qu'elle n'a pas été convoquée depuis 30 jours, avec quasiment aucune relation avec son peuple, et vient maintenant sur elle ce rôle d'être le lien entre les deux. Le sort de son peuple est entre ses mains. Et quelle va être sa réaction? Comment va-t-elle réagir? Qu'est-ce qu'elle va être prête à risquer pour pouvoir jouer ce rôle? Alors on voit que sa première réaction, ça va être de rappeler à Mardoché, et peut-être de se rappeler à elle-même, les enjeux, qu'elle risque de mourir, que d'après la loi, il y a une vraie possibilité qu'elle soit mise à mort si elle se présente devant le roi sans y avoir été invitée. Formellement, elle ne refuse pas l'ordre de Mardoché. Et elle mentionne la possibilité qu'il y a encore de l'espoir, que le roi pourrait lui tendre le sceptre. Donc elle ne refuse pas, mais la question est très claire. Est-ce qu'elle va être prête à prendre ce risque? Elle met ce risque en avant, mais va-t-elle être prête à franchir le pas, à dire « je mets ma vie en jeu pour pouvoir jouer ce rôle ». Et assis sur notre chaise ce matin, plusieurs millénaires après, c'est possible de se dire « mais il y a quelque chose d'inadapté dans sa réponse ». On pourrait presque dire quelque chose d'égoïste. Elle vient d'apprendre que tout son peuple est menacé de génocide, et sa seule réaction, c'est de dire « oui, mais moi, je risque de mourir ». Ça correspond assez mal à l'idée qu'on peut avoir de nos super-héros de films, de nos héros de films d'action qui sont prêts à tout pour sauver le monde. Ça correspond assez mal à Wonder Woman qui est prête à courir vers le champ de bataille pour intervenir. On voit pas Bruce Willis en apprenant qu'une météorite va arriver sur la Terre, contacter son assureur pour voir s'il est assuré pour ce genre de situation au niveau des accidents de météorites. Esther n'est pas alignée avec ce qu'on imagine de ces héros qui ont la possibilité de sauver le monde, et pour elle de sauver son peuple. Mais je crois qu'il ne faut pas juger Esther trop vite. Il est probable qu'on n'ait jamais à faire face à une situation aussi dramatique que celle d'Esther. Mais comment nous réagissons quand quelque chose d'imprévu, quand une situation très difficile surgit, quand on doit prendre une décision rapidement et que on se rend compte qu'il y a des enjeux forts? Est-ce qu'on arrive à s'asseoir tranquillement et à évaluer la situation? Ou est-ce qu'on réagit comme Esther, un peu au réflexe, un peu à l'instinct, dire « mais vous réalisez le risque pour moi, vous réalisez le danger ». Est-ce que dans une situation pleinement imprévue, c'est notre instinct, même parfois notre peur qui réagit, plutôt que une réflexion mûrement menée sur quelle serait la bonne réaction à avoir? Je crois que dans les tests de la vie, ces moments cruciaux, ces moments où on est mis sous pression, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous qui ressort. C'est ce qui est vraiment important pour nous, c'est notre vraie loyauté. Qu'est-ce qui est vraiment notre priorité dans notre vie? Et c'est réellement ça l'enjeu pour Esther à ce moment-là. À qui appartient-elle? En qui est-elle vraiment loyale? À quel monde elle appartient? Est-ce que maintenant elle se définit comme une reine qui veut protéger son statut de reine et sa vie de reine, quitte à voir son peuple périr? Ou est-ce qu'elle est prête à tout mettre en jeu parce qu'elle est d'abord loyale envers son peuple, d'abord loyale envers Dieu, et qu'elle reconnaît qu'il vaut mieux tout perdre, mais garder sa loyauté envers Dieu et son peuple, envers le monde auquel elle appartient vraiment? Et je crois que sa première réponse montre qu'il y a une vraie tension pour elle, un vrai enjeu de loyauté, un vrai questionnement. Quel est le monde auquel elle appartient? Et encore une fois, nous n'avons pas, en général, à faire face à une situation aussi dramatique, mais nous avons ce genre de test, de manière plus ou moins intense, mais nous avons souvent à nous poser la question. À qui nous appartenons? En qui allons-nous être vraiment loyal? Qu'est-ce que nous allons faire passer en premier? Est-ce que ça va être notre situation, nos propres intérêts, peut-être notre carrière, nos amis? Ou est-ce qu'on est prêt à perdre? Est-ce qu'on est prêt à perdre certaines de ces choses? Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques pour manifester notre appartenance à Dieu, pour manifester notre loyauté envers Dieu et envers son peuple? Et là aussi, pour nous, ça n'a rien de simple. Quand ces situations se présentent, elles se présentent jamais au bon moment, elles se présentent jamais quand on le voudrait, on n'est jamais préparé. C'est souvent la peur et la panique qui décident à notre place. Mais je crois qu'on est amené à reconnaître dans ces tests-là, dans ces situations, les occasions pour nous de manifester notre loyauté, de manifester que nous appartenons à Dieu avant d'appartenir au reste du monde. Parce que notre patron nous demande certaines choses qui, nous le savons, n'est pas correctes, quand il nous demande peut-être de marcher sur quelqu'un, de mépriser quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant, lorsque nous savons que nous devons aider quelqu'un et que ça pourrait nous coûter, lorsque nous savons peut-être que certaines relations que nous avons devraient être rompues si nous voulons rester fidèles à Dieu. Et je pourrais continuer, il y a tellement de situations où nous sommes amenés à réfléchir, est-ce que je suis prêt à perdre quelque chose? Est-ce que je suis prêt à prendre un risque si je veux continuer à manifester ma loyauté envers Dieu? Mais revenons à Esther et nous allons lire les derniers versets de ce chapitre. Donc Esther 4, à partir du verset 12. On rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Mardoché fit répondre à Esther : Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille, vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther fit répondre à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, ni la nuit ni le jour, pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Sur quoi j'irai chez le roi, malgré la loi. Si je dois disparaître, je disparaîtrai. Mardoché s'en alla pour faire exactement ce qu'Esther lui avait ordonné. Jusqu'ici notre livre. Je crois que ces quelques versets sont le tournant réellement de ce livre d'Esther. En quelques mots, en quelques paroles de Mardoché, il va amener Esther à être la reine que Dieu voulait qu'elle soit, à prendre la décision que Dieu voulait qu'elle prenne. Mais quels sont les arguments de Mardoché dans cette situation pour amener Esther à prendre une décision? Je crois qu'il y a principalement trois choses que Mardoché dit à Esther. La première, au verset 13, il lui rappelle que même si elle vit au palais, elle appartient d'abord au peuple de Dieu. Et que même si elle est éloignée de son peuple à ce moment-là, c'est envers ce peuple qu'elle doit être solidaire. Et il lui rappelle que si elle cherche à garder ce qu'elle a reçu au palais, garder sa vie de reine, non seulement elle perdra son peuple, mais elle perdra aussi sa vie de reine. Il lui rappelle que si elle cherche à protéger sa vie, quitte à ne pas respecter ce qu'elle sait être la volonté de Dieu, elle risque de perdre les deux. On voit ici un écho très clair à ce que Jésus nous enseigne pour nous. Je vous lis en Matthieu 10. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Jésus est d'autant plus clair que Mardoché, lorsqu'il s'adresse à nous, il nous dit, mais si toutes ces choses que je vous ai données, votre famille, votre travail, toutes les situations dans lesquelles vous êtes prêts à vous y accrocher plus qu'à moi, vous risquez de perdre les deux. Vous ne pouvez pas faire ce choix de vous protéger vous-même avant de suivre Dieu. Ni Esther, ni nous ne pouvons choisir de nous protéger nous-mêmes avant de suivre Dieu là où il nous place. Et le deuxième argument de Mardoché est très intéressant, la première partie du verset 14. C'est même surprenant. Je vous relis la première partie du verset 14. « Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Esther? D'une certaine manière, il lui dit « Peu importe ce que tu décides, ça ne changera rien au destin d'Israël. L'enjeu pour toi, Esther, c'est de savoir quel rôle tu vas jouer dans le destin d'Israël. Mais dans le destin du peuple de Dieu, Dieu est au contrôle. Mardoché manifeste une foi très claire en Dieu, même si, là encore, il ne mentionne pas le nom de Dieu. Mais les choses sont claires. Il est en train de lui dire, Dieu est au contrôle, Dieu va prendre soin d'Israël, que tu le veuilles ou non, que tu participes ou pas. C'est pas l'enjeu ici. Mais l'enjeu, c'est quelle va être ta place dans cette action de Dieu. Dieu est en train d'agir. Mais est-ce que tu veux être de son côté quand il va agir? Et pour nous, l'écho est très fort. L'appel est très fort. Dieu est en train d'agir aujourd'hui. Dieu agit en France, Dieu agit à Paris, Dieu agit partout. Mais la question que Mardoché, d'une certaine manière, nous adresse, c'est de quel côté on veut être? Est-ce qu'on veut prendre part à ce que Dieu est en train de faire? Dieu est souverain, il agit. Mais nous, quel engagement on veut avoir dans ce que Dieu est en train de faire? D'une certaine manière, il nous dit que sur ce terrain, Dieu est en train a déjà remporté le match. Il est déjà en train de remporter le match qui est en train de se jouer. Mais nous, on n'a pas l'option de se mettre sur le banc de touche ou dans les spectateurs. Dans le match que Dieu est en train de remporter, nous avons un choix clair. Est-ce qu'on veut être sur le terrain? Est-ce qu'on veut jouer dans l'équipe de Dieu? Ou est-ce qu'on veut se mettre de côté et se retrouver malgré nous dans l'équipe adverse? Et enfin, dans le troisième argument, dans la suite de ce verset, Mardoché amène Esther à réévaluer sa situation, surtout à réévaluer son parcours. Il lui rappelle que c'est pas un hasard si elle en est là, que les circonstances dans lesquelles elle est, le fait d'être reine, le fait d'être une reine juive dans un empire perse, c'est pas un hasard. Dieu a agi, Dieu l'a amenée jusque-là. Mais il l'amène à faire le point par rapport à ce que ça veut dire pour elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'elle va faire des circonstances que Dieu lui a données? Il est en train de lui dire, mais Esther, considère que c'est pas pour rien que tu es là, que c'est pas pour rien que tu es devenue reine, que tu as une responsabilité, c'est pas parce que Dieu t'a amenée jusqu'ici que tu dois rester passive par rapport à ce que Dieu fait. Dieu t'invite à réagir, à agir par rapport à la situation dans laquelle Dieu te place. Et nous aussi, nous sommes amenés à réfléchir à notre situation. À ma connaissance, aucun de nous n'a été fait roi ou reine par Dieu dans nos situations. Mais il nous place dans certaines circonstances. Et il nous dit, bien sûr, tu as travaillé dur, bien sûr, tu as fait certaines choses pour arriver là où tu en es. Mais considère que c'est Dieu qui t'a amené là. Considère que, en coulisses, c'est Dieu qui t'a accompagné, c'est Dieu qui a permis certaines choses. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître ça? Et surtout, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ça? Est-ce qu'on décide d'être un instrument de bénédiction là où Dieu nous place? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de consolider nos acquis, de dire « Merci Seigneur de m'avoir donné toutes ces choses, merci Seigneur de m'avoir donné cette situation, ce travail, cette famille et tout un tas de choses. Alors maintenant, je travaille dur pour les garder. » Ou alors, est-ce que je vais dire, toutes ces choses sont des cadeaux de Dieu, mais moi, comment je peux m'en servir pour être une bénédiction pour mon peuple, pour la gloire de Dieu? Quelle va être ma réaction dans la situation dans laquelle Dieu me place. Alors je crois que Mardochée a des choses très importantes à dire à Esther, bien sûr, et on voit que ça porte du fruit. Mais Mardochée a des très bonnes questions à nous poser à nous aussi, sur notre loyauté, sur le fait que, est-ce qu'on considère vraiment notre solidarité envers Dieu et envers le peuple de Dieu? Est-ce qu'on réalise que Dieu est réellement en train d'agir et qu'il a la victoire entre ses mains? Mais l'enjeu, c'est, est-ce que nous, on va participer à cette victoire? Est-ce que nous, on va devenir acteur, instrument entre ses mains pour cette victoire? Et est-ce qu'on réalise vraiment que ce que nous avons, nous ne l'avons pas premièrement par nos propres mérites, même si nous avons travaillé dur pour obtenir certaines choses? Premièrement, ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Et alors, quel va être notre usage de ce que Dieu nous donne? Quel va être l'usage que nous faisons des circonstances que Dieu nous donne, des biens que Dieu nous donne, des opportunités que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et l'exemple de la réaction d'Esther est vraiment encourageant pour nous. Dans un premier temps, d'une certaine manière, contrairement à Mardochée, elle ne semble pas au clair sur ce qui va se passer. Et elle le dit clairement. Si je dois disparaître, je disparaîtrai. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand elle se présentera devant le roi. Mais elle a compris que suivre Dieu à ce moment-là, c'était prendre ce risque. Et ce qui est beau dans ce qui se passe ici, c'est qu'en acceptant de tout abandonner, en acceptant de mettre sa royauté sur la table et même de mettre sa vie sur la table, c'est précisément là où elle va vraiment devenir la reine que Dieu lui demande d'être. Sur les 14 fois où on a l'expression « la reine Esther » dans le livre d'Esther, 13 se trouvent après ce point-là, après ce texte-là. Les moments où on voit vraiment Esther être la reine Esther, c'est à partir du moment où elle dit « ces choses ne m'appartiennent pas, je préfère suivre Dieu et Dieu s'occupera de moi ». Jusqu'à ce point dans le livre d'Esther, elle était passive, elle était simplement obéissante. Et à partir du moment où elle dit « j'arrête de combattre pour essayer de maintenir ma situation d'une manière ou d'une autre », à partir du moment où je dis « je suis Dieu » et j'ai les priorités clairement établies dans ma tête, j'ai ma loyauté clairement établie envers Dieu, alors c'est là où Dieu va vraiment pouvoir l'utiliser comme il avait prévu de l'utiliser là où il l'a placé. Face à cet exemple d'Esther, bien sûr, même si je crois que certains, vous avez vécu des choses qui peuvent être difficiles, pas du même ordre qu'Esther, mais vraiment des choses, des carrefours dans votre vie vraiment intenses de cette manière-là. Mais je crois aussi qu'on le vit d'une certaine manière, plus ou moins intensément, tous les jours de notre vie. À chaque instant, nous sommes appelés à choisir entre deux mondes. Nous sommes appelés à choisir envers qui nous voulons être loyaux. Et ça peut prendre des formes les plus bénignes dans tous les petits détails de notre travail, par exemple. Et ça peut prendre des aspects très concrets et avec des lourdes conséquences sur le reste de notre vie. Mais nous sommes amenés à réfléchir quelles sont nos priorités, à qui nous appartenons, envers qui nous voulons marquer notre loyauté. Et si nous perdons ces choses de vue, forcément d'autres choses vont arriver en premier. Forcément, notre travail va passer en premier, notre réputation va passer en premier, la protection de nos biens, notre argent peut passer en premier, nos rêves, nos projets, notre confort, toutes ces choses peuvent nous amener à prendre des mauvaises décisions si d'abord nous ne sommes pas au clair sur quelle est notre mission, à qui nous appartenons, de quel peuple nous faisons partie, qui est notre roi. Et nous avons besoin, en toutes circonstances, de garder les idées claires sur le fait que Dieu agit. Peut-être de manière étonnante. S'il y a une chose claire dans le livre d'Esther, c'est que Dieu agit de manière étonnante et de manière mystérieuse, mais Dieu est en train d'agir. Alors quel rôle nous voulons avoir? Est-ce qu'on veut être réellement des instruments actifs entre ses mains qui manifestent sa gloire là où il nous place? C'est un choix que nous devons faire chaque jour. Et je crois que plus nous tardons à faire ces choix, plus c'est difficile. Plus nous sommes immergés dans notre culture, comme Esther elle a pu l'être, plus nous sommes flous sur notre loyauté, plus ça va être difficile de manifester des choix qui représentent notre loyauté envers Dieu. Nous avons besoin d'être clairs quotidiennement sur à qui nous appartenons si nous voulons pouvoir faire les bons choix quand ils nous arriveront. Nous ne choisissons pas à quel moment les grands choix de la vie arrivent, mais si nous sommes clairs à chaque jour de notre vie, alors les choses se passeront plus naturellement pour nous et nous pourrons réellement être les instruments que Dieu veut que nous soyons là où il nous place. Alors, on va avoir un temps musical où on va pouvoir chacun réfléchir sur les circonstances là où nous sommes, ces possibilités que nous avons, les choses que Dieu a mis entre nos mains, et que chacun puisse avoir un temps de prière silencieuse dans notre cœur face à Dieu pour voir si nous avons peut-être l'occasion encore dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, de pouvoir faire le même bon choix que Esther a pu faire. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes en toutes circonstances. Merci parce que même dans ces circonstances que nous ne maîtrisons pas, qui sont parfois bonnes, et nous avons vu Esther pouvoir se retrouver dans une situation enviable, d'une certaine manière, sans rien le faire pour l'obtenir. Et à l'inverse, nous avons vu Esther se retrouver dans une situation absolument pas enviable, sans qu'elle n'ait rien mérité pour ça. Seigneur, tu conduis toutes choses, tu nous accompagnes dans les circonstances de la vie, mais permets-nous de continuer d'entendre les conseils de Mardoché. Permets-nous d'avoir les idées claires sur notre appartenance à toi et que tu prends soin de nous. Nous devons avoir cette liberté d'être prêts à perdre pour te suivre, parce que nous savons que tu es vraiment celui qui prend soin de nous, qui nous protège, qui nous dirige, et que nous pouvons te faire confiance. Tu es un roi qui est bon envers ses sujets, tu es un roi qui prend soin de ceux qui le servent, et nous voulons avancer dans la vie avec cette pleine confiance qui nous permet de te suivre sans arrière-pensée, sans inquiétude et sans hésitation face aux choix que tu mets devant nous, Seigneur. Amen.